Combien de fois l'homme en colère nie-t-il avec rage ce que lui souffle son moi intérieur? Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulan. Il irradiait de la foule assemblée dans la grotte cette atmosphère que Jessica avait perçue le jour où Paul avait tué Jamis. De petits groupes se formaient et des murmures nerveux couraient. Comme elle quittait la chambre de Paul et s'avançait sur la terrasse rocheuse, elle prit sous sa robe un cylindre à message. Elle s'était reposée après le long voyage depuis le sud, mais elle en voulait encore à Paul de ne pas les autoriser à utiliser les ornis capturés. « Nous n'avons pas encore pleinement le contrôle des airs, » avait-il dit, « et nous ne pouvons dépendre d'apports de carburant étrangers. Les appareils et le carburant doivent être mis en réserve en attendant le jour de l'offensive générale. » Paul se tenait près de la terrasse en compagnie des hommes les plus jeunes. Dans la pâle clarté des brilleurs, la scène semblait irréelle. C'était comme un tableau avec en plus la rumeur des voix, les odeurs âcres, les piétinements. Jessica observa son fils, se demandant pourquoi il ne lui avait pas encore révélé la surprise. Gurney Alec. La pensée de Gurney lui ramenait les souvenirs d'un passé plus doux. Un passé fait de jours de beauté et de l'amour du père de Paul. Stilgar attendait au sein d'un autre groupe, de l'autre côté de la terrasse. Il était silencieux, plein de dignité. « Il ne faut pas perdre cet homme, » songea Jessica. « Le plan de Paul doit réussir. Toute autre solution serait tragique. » Elle s'avança, passa à côté de Stilgar, et un chemin s'ouvrit dans la foule jusqu'à Paul. Elle le parcourut dans le silence. Elle connaissait la raison de ce silence, toute l'émotion et les questions muettes qu'il contenait. Elle était la révérende mère. Les jeunes gens s'écartèrent de Paul à son approche, et un instant, cette déférence nouvelle l'irrita. Un axiome Bene Gesserit lui revint. « Tous ceux qui se trouvent au-dessous de toi convoitent ta situation. » Mais sur tous ses visages, elle ne lisait pas la moindre convoitise. Ce qui les séparait d'elle, c'était ce ferment religieux qui s'était développé à partir de Paul, qui s'était étendu autour du chef. Et Jessica se souvint d'un autre axiome, Bene Gesserit, « Les prophètes ont l'habitude de périr par la violence. » Paul leva les yeux sur elle. « C'est le moment, » dit-elle, et elle lui tendit le cylindre. L'un des compagnons de Paul, plus audacieux que les autres, regarda Stilgar et demanda « Vas-tu le défier, Muad'Dib ?»« Le moment est venu, c'est certain. Ils vont tous penser que tu es un lâche si tu ne... « Qui ose me traiter de lâche ?» s'exclama Paul. Et sa main jaillit en un éclair vers la poignée de son Chris. Le silence s'abattit sur le petit groupe et gagna la foule. « Nous avons un travail à accomplir !» dit Paul tandis que l'audacieux reculait. Il se retourna, se fraya un passage jusqu'à la terrasse et y bondit avec souplesse. Il fit face à la foule. « Vas-y !» hurla une voix. Des murmures et des chuchotements s'élevèrent. Paul laissa le silence revenir. Il y eut encore des toussotements, des piétinements. Puis, quand le calme fut revenu dans la caverne, il leva la tête et sa voix porta dans toute la vaste salle. « Vous en avez assez d'attendre, » dit-il. À nouveau, il laissa monter les cris, puis revenir le silence. Bien sûr qu'ils en ont assez d'attendre. Se dit-il. Il brandit le cylindre tout en pensant au message qu'il contenait. Sa mère le lui avait montré en lui expliquant qu'il avait été pris sur un courrier des Harkonnen. Il était explicite. Rabban était laissé à ses propres ressources sur Arrakis. Il ne pouvait demander ni soutien ni renfort. Vous pensez que le moment est venu de défier Stilgar et de changer de chef? Lança-t-il. Et avant que la foule puisse répondre, il ajouta avec fureur, « Croyez-vous que le Liran al-Raib soit aussi stupide ?» Il y eut un silence stupéfait. « Il assume son titre religieux, » se dit Jessica. « Il ne doit pas. »« C'est l'usage !» lança quelqu'un. Paul répliqua d'une voix sèche, guettant les moindres courants d'émotion. « Les usages changent !» Une voix pleine de colère s'éleva du fond de la grotte. « C'est nous qui décidons des changements !» Il y eut des cris d'approbation. « Comme vous le voudrez !» dit Paul. Il se servait de la voix. Jessica avait reconnu les subtiles intonations qu'elle lui avait enseignées. « C'est vous qui déciderez !» dit Paul. « Mais d'abord, vous m'écouterez !» Stilgar s'avança, le visage impassible. « C'est aussi l'usage, » dit-il. « Tout Fremen peut être entendu au conseil. Paul Mouad-Dib est un Fremen. »«
Le bien de la tribu est ce qui importe, non ?» demanda Paul.
Sans se départir de son calme plein de dignité, Stilgar répondit « Tel est le but de nos pas. »«
Très bien. Alors qui commande cette troupe, cette tribu ?»
Et qui commande toutes les troupes et toutes les tribus par l'intermédiaire des instructeurs formés à l'art étrange du combat.
Paul attendit, observant les têtes innombrables. Il n'y eut pas de réponse.
Est-ce donc Stilgar? Il s'en défend lui-même.
Est-ce moi?
Même Stilgar agit selon ma volonté, parfois, ainsi que les sages et les plus sages des sages. Tous, ils m'écoutent et m'honorent au conseil.
Le silence continuait de régner sur la foule.
Et ma mère commande-t-elle?
Il tendit la main vers Jessica qui attendait dans sa robe noire de cérémonie.
Stilgar et tous les autres chefs lui demandent conseil pour une décision importante, vous le savez bien. Mais une révérende mère marche-t-elle dans le sable? Conduit-elle une razzia contre les Harkonnen?
Paul vit des sourcils froncés, des expressions pensives. Mais il perçut encore des murmures de colère. Il s'y prend d'une façon dangereuse, se dit Jessica. Mais elle se rappelait le message du cylindre et ce qu'il signifiait. Et elle comprit ses intentions. Aller jusqu'au fond de leur incertitude et en triompher. Tout le reste suivrait alors.
Nul homme ne reconnaît un chef sans qu'il y ait défi et combat, n'est-ce pas? Demanda Paul.
C'est l'usage! Lança une voix.
Quel est notre but?
Renverser Rabban, la bête des Harkonnen, et faire de ce monde un endroit où nous puissions vivre avec nos familles, dans le bonheur et l'abondance d'eau. Est-ce bien notre but?
Les tâches difficiles exigent des moyens difficiles, cria une voix.
Jetez-vous votre couteau avant la bataille? Demanda Paul.
Je vous le dis, et ce n'est là ni orgueil, ni défi.
Il n'est pas un homme ici pour me vaincre, Stilgar y compris. Stilgar lui-même l'admet. Il sait, et vous aussi, que cela est vrai.
Il y eut encore des murmures de colère.
Nombreux sont ceux d'entre vous qui se sont essayés contre moi.
Vous savez que je ne me vante point. C'est un fait que nous connaissons tous, que nous reconnaissons.
Si je ne le reconnaissais pas moi-même, je serais stupide. Je me suis battu ainsi bien avant vous, et ceux qui m'ont enseigné cet art de se battre étaient plus forts que tous les hommes que vous pourrez jamais rencontrer. Comment croyez-vous que j'ai pu terrasser Jemis à un âge où les autres enfants jouent encore?
Il se sert très bien de la voix, se dit Jessica, mais cela ne peut suffire avec ces gens. Ils sont particulièrement protégés contre le contrôle vocal. Il doit aussi les attaquer par la logique.
Alors, reprit Paul, venons-en à ceci. Il prit le cylindre et déploya le message. Ceci a été pris à un courrier Harkonnen. L'authenticité de ce message ne souffre pas de doute. Il est adressé à Rabban et dit que sa dernière requête pour l'envoi de troupes est repoussée, que sa récolte d'épices est en dessous du quota et qu'il doit être en mesure d'amasser plus d'épices avec les gens dont il dispose.
Stilgar s'avança.
Combien d'entre vous comprennent-ils ce que signifie ce message? Demanda Paul.
Stilgar l'a vu immédiatement.
Ils sont isolés, cria quelqu'un.
Paul remit le message et le cylindre dans sa ceinture. Puis il prit l'anneau qui pendait à son cou sur un fil de chigavrille tressé.
Voici l'anneau ducal de mon père, dit-il. J'avais fait le serment de ne pas le porter avant le jour où je pourrais lancer mes troupes sur Arrakis et réclamer le fief qui me revient légalement. » Il libéra l'anneau, le glissa à son doigt et ferma le poing. Le silence devint encore plus lourd. « Qui commande ici ?» Il brandit le poing. « C'est moi. Je règne sur chaque pouce d'Arrakis. Ce monde est le fief du duc des Atréides, que l'empereur le veuille ou non. Il l'a donné à mon père, et par mon père, il me revient. » Il se dressa sur la pointe des pieds et observa la foule, essayant de percevoir les émotions. « Presque, se dit-il. Quand je réclamerai les droits impériaux qui me reviennent, certains hommes acquerront des postes importants sur Arrakis. Stilgar sera l'un d'eux. Ce n'est pas que je veuille l'acheter. Ce n'est pas non plus par gratitude, bien que je sois l'un de ceux qui lui doivent la vie. Non, c'est simplement parce qu'il est sage et fort. Parce qu'il gouverne sa troupe avec son intelligence et non pas seulement par ses ordres. Me croyez-vous stupide? Pensez-vous vraiment que je me trancherai ainsi le bras droit et le laisserai tout sanglant sur le sol de cette grotte pour le seul plaisir de vous distraire ? Il promena un regard dur sur les visages levés vers lui. « Qui ose dire que je ne suis pas le maître légal d'Arrakis ? Dois-je le prouver en privant de leur chef toutes les tribus de l'ergue ?» À ses côtés, Stilgar eut un regard interrogateur. « Comment pourrais-je me priver d'une partie de notre force au moment où nous en avons le plus besoin ? Je suis votre chef et je vous dis que le moment est venu où nous devons cesser de tuer nos meilleurs hommes pour commencer à tuer nos véritables ennemis, les Harkonnen. » D'un geste vif, Stilgar brandit son kris et le pointa vers l'assemblée. « Longue vie au duc Paul Muad'Dib » cria-t-il. Une assourdissante rumeur emplit la grotte, répercutée par l'écho.
« Yahya Chouada, Muad'Dib, 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 Yahya Chouada !»
« Longue vie aux soldats de Muad'Dib », traduisit Jessica. Les événements se déroulaient selon le plan qu'elle avait mis au point avec Paul et Stilgar. Lentement, le tumulte s'estompa et mourut. Quand le silence fut revenu, Paul se tourna vers Stilgar et dit « À genoux, Stilgar. » Stilgar obéit. « Donne-moi ton kris, » dit Paul. Stilgar lui tendit la lame blanche. « Nous n'avions pas prévu cela, » se dit Jessica. « Répète après moi, » dit Paul. Et il prononça les paroles d'investiture telles qu'il les avait entendues prononcer par son père. « Moi, Stilgar, je prends ce couteau des mains de mon duc. Moi, Stilgar, je prends ce couteau des mains de mon duc. » répéta Stilgar en acceptant le kris à l'éclat laiteux. « Où mon duc me l'ordonnera, je plongerai cette lame, » dit Paul. Lentement, solennellement, Stilgar répéta ses paroles. Jessica, se souvenant du rite, dut refouler ses larmes, et elle songea en secouant la tête. « Je connais ses raisons. Je ne devrais pas me laisser mouvoir ainsi. Je voue cette lame à la cause de mon duc et à la mort de ses ennemis aussi longtemps que coulera notre sang, » dit Paul. Et Stilgar répéta. « Embrasse cette lame, » ordonna Paul. Stilgar obéit, puis, à la façon Fremen, embrassa ensuite le bras de combat de Paul. Enfin, il glissa le kris dans son fourreau et se remit sur pied. Un murmure courut dans la foule et Jessica perçut des mots. La prophétie. Une Bene Gesserit montrera le chemin et une révérende mère le verra. Plus loin encore, une voix ajouta « Elle nous guide par son fils. » « C'est Stilgar qui commande la tribu, » dit Paul. « Que nul homme ne s'y trompe. Il commande avec ma voix. » Ce qu'il vous dit, c'est ce que je vous dis. Habile, pensa Jessica. Le chef de la tribu ne peut perdre la face devant ceux qui devront lui obéir. Paul baissa la voix pour poursuivre. Stilgar,
je veux que des marcheurs gagnent le désert cette nuit et que l'on envoie des Sielago pour convoquer l'Assemblée des Conseils.
Lorsque ce sera fait, prends Rat, Korba, Osseim et deux autres lieutenants de ton choix. Venez me rejoindre dans mes quartiers pour que nous mettions le plan de bataille au point. Lorsque le Conseil des chefs se réunira, il faut que nous ayons une victoire à présenter.
Paul se tourna vers sa mère et inclina la tête pour l'inviter à le suivre, puis quitta la terrasse rocheuse et emprunta le passage central vers les chambres qui leur avaient été préparées, tandis que de toutes parts, des mains se levaient et que des voix appelaient.
« Mon couteau obéira aux ordres de Stilgar, Paul Muad'Dib. Battons-nous, Paul Muad'Dib. Que le sang des Harkonnen abreuve notre monde !»
Jessica percevait nettement le désir de se battre qui animait tous ces hommes. Jamais ils n'avaient été aussi près.
« Nous les emmenons vers les sommets, » pensa-t-elle.
Dans la chambre, Paul fit asseoir sa mère, puis dit « Attendez ici !» et il disparut entre les tentures. Jessica resta seule dans la chambre silencieuse où ne parvenait même pas la rumeur des grandes pompes qui faisaient circuler l'air dans le siège.
« Il va chercher Alec, » se dit-elle.
Et elle s'inquiéta de l'étrange mélange d'émotions qu'elle ressentait. Gurney et sa musique évoquaient tant de moments heureux de Caladan. Mais Caladan était si loin que c'était comme si une autre personne y avait vécu. En 3 années, Jessica était devenue quelqu'un d'autre, et l'idée de revoir Gurney l'obligeait à repenser à tous les changements qui s'étaient produits. Sur une table basse, à sa droite, il y avait le service à café d'argent et de jasmium que Paul avait hérité de Jemis. En observant les tasses élancées, elle se demanda combien de mains déjà les avaient touchées. Shiny elle-même avait servi Paul depuis 1 mois. Que peut faire cette femme du désert pour un duc, sinon lui servir le café, se dit Jessica. Elle ne lui apporte aucun pouvoir, aucune famille. Paul n'a qu'une chance majeure, celle de pouvoir s'allier à une des grandes maisons, peut-être même à la famille impériale. Il y a des princesses en âge de se marier, après tout, et chacune d'elles est une Bene Gesserit. Et elle s'imagina quittant les rigueurs d'Arrakis pour la sécurité et le pouvoir qui étaient les attributs de la mère d'un prince. Elle promena son regard sur les épaisses tentures et se souvint de son voyage jusqu'à la grotte, en palanquin, de verre en verre, avec autour d'elle les plateformes où s'entassaient les vivres et le matériel nécessaire à la campagne en préparation. Aussi longtemps que Shiny vivra, Paul ne comprendra pas où est son devoir. Elle lui a donné un fils, cela suffit. Elle éprouva le désir soudain de voir son petit-fils, cet enfant qui ressemblait tant à Leto. Elle plaça alors les paumes de ses mains contre ses joues et donna à sa respiration le rythme rituel qui calmait les émotions et clarifiait l'esprit. Puis, elle se pencha en avant pour l'exercice de dévotion qui préparait le corps aux exigences de l'esprit.